France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Un road movie féministe dans la France du XVIIe siècle, il fallait oser. Ouda Benyamina adapte Les Trois Mousquetaires à sa sauce. Elle sera mon invitée à 13h avec deux de ses comédiennes, Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena. Mais d'abord, place à la critique du jour, le théâtre est à l'honneur aujourd'hui avec Requiquinella, la nouvelle création de la Sicilienne Emma Dante, et puis Guerre, l'adaptation du roman inédit de Louis-Ferdinand Céline avec Benjamin Voisin. Voilà pour le programme. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à nos critiques du jour. Philippe Chevillier, chef du service culture des Échos.
Bonjour.
Bonjour. Vincent Bouquet, journaliste.
Bonjour.
Bonjour
Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Alors, un roi se retrouve, excusez-moi, avec une poule dans le fondement. Et cette poule pond un œuf d'or par jour. Très inconfortable pour sa majesté, très intéressant pour son entourage avide de richesse. Voilà l'intrigue de Requiquinella, la nouvelle création d'Emma Dante au Théâtre de la Colline à Paris. La metteuse en scène sicilienne adapte pour la troisième fois un conte de l'écrivain napolitain du XVIe siècle, Gian Battista Basile. Évidemment, on est entre farce totale et tragédie, et cette histoire d'entrailles royales se fond totalement dans le théâtre de corps du corps d'Emma Dante. C'est un spectacle en napolitain, surtitré en français. On commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre, Philippe Chevillier.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, j'ai trouvé que c'était un superbe conte où le trivial, le scatologique, le dispute au merveilleux, feu d'artifice visuel, réglé comme du papier à musique, avec un soupçon de mélancolie, et puis une satire évidemment sociale qui est présente à la fois dans l'œuvre de Basile et d'Emma Dante. Donc voilà, pour moi c'est un spectacle parfait.
Vincent Bouquet.
Moi, je dirais que c'est une drôle de fable avant tout, qui sous son allure baroque et farcesque révèle quand même la triste cruauté dont peuvent parfois faire preuve les hommes, et notamment grâce au travail théâtral vraiment d'orfèvre. Je rejoins Philippe d'Emma Dante.
Alors, on va écouter tout de suite un peu ce que ça donne cette Requiquinella.
Buongiorno, maestà!
Requiquinella d'Emma Dante. Alors Philippe Chevillier, vous parliez d'un spectacle réglé comme du papier à musique. On l'entend, il y a beaucoup de musique d'ailleurs.
Oui, Handel, en fond de la musique baroque. Alors ce qui est drôle, c'est que ce spectacle, il y a une évidence, hein, le public il réagit au quart de tour. Et en même temps, c'est pas si facile que ça à raconter, parce qu'il y a en fait, c'est un mélange à la fois de comédia dell'arte, de folklore traditionnel napolitain, puisque le conte est napolitain, de cabaret, un petit peu de show. Par moments, on voit des petites pointes à la Pina Bausch. Et en plus, Emma Dante, c'est ambigu, parce que ces spectacles, on a l'impression souvent que c'est des précipités, que c'est très spontané. Là, on a l'impression que c'est effectivement très construit, et en même temps, il y a cette énergie du corps, qui fait que on est pris aussi dans le côté débridé, donc c'est vraiment ça stimule un peu tous les sens.
Mmh. Vincent Bouquet, vous disiez travail d'orfèvre.
Oui, moi c'est ça qui m'a marqué, c'est-à-dire que alors il faut peut-être remettre ça aussi dans le contexte du travail d'Emma Dante. C'est déjà la troisième fois qu'elle s'empare d'un fragment d'un des contes du conte des contes de Giambattista Basile. Elle l'avait fait avec La Stortecata et puis avec Pupo di Zucchero, et c'est vrai qu'on voit qu'elle s'avance un peu en experte de Giambattista Basile quand elle s'empare de ce conte des contes, parce que elle arrive vraiment à très très bien alterner entre ce côté volontiers farcesque, j'allais dire volontiers fantasme, burlesque, farceur, comme d'ailleurs seule l'époque baroque osait en produire. On en produit moins des contes comme ça aujourd'hui, avec ce roi comme ça qui a cette poule dans le fondement, pour être poli. Alors cette poule, elle est arrivée là, en plus, un peu par mégarde, puisque le roi, il était en pleine nature, comme ça, il a voulu s'essuyer, et puis tout à coup, il s'est dit, ah, tiens, les plumes soyeuses de la poule, c'est pas mal. Et puis cette poule, tac, elle s'est accrochée, elle n'était pas morte finalement, elle s'est accrochée, et puis elle est rentrée comme ça à l'intérieur de lui. Et alors vous disiez tout à l'heure, Marie, qu'elle pondait un œuf par jour, sauf que là, quand on retrouve le roi, ça fait déjà 13 jours qu'elle n'a pas pondu, puisqu'il jeûne en fait ce roi, et c'est là que se niche aussi la cruauté de la pièce, puisqu'on a ce roi qui jeûne, qui pense que l'animal va mourir, et finalement, pour l'instant, il meurt pas. Alors autour de lui, on a comme ça un entourage qui se met en place, une sorte de sarabande, avec on a sa femme, on a sa fille, la princesse, ses deux serviteurs qui sont un peu gauches, il faut bien le dire. Et puis on a toutes les damoiselles de la cour, alors il appelle ça des damoiselles. Et ces damoiselles, par exemple, je trouve qu'Emma Dante, là, on en revient à son côté experte, elle les transforme vraiment en une sorte de basse-cour, un petit peu. C'est-à-dire qu'on a comme ça, elles sont forcément ridicules, elles ont des manières un peu sottes, un peu mimétiques, faussement déférentes. Et tout cela, ça génère une atmosphère très cruelle autour de ce roi. Et ils vont se mettre comme ça, par exemple, il y a cette scène qui est parmi une des plus marquantes, qui est la scène du thé, où ils vont se mettre comme ça à prendre le thé, et puis tout à coup ça va se transformer en repas gargantuesque. Et en fait, les uns les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste que le roi mange à nouveau pour qu'il puisse pondre un œuf en or, et après cet œuf en or, il le récupère, et on a ce roi qui s'affame. Donc là, vraiment, on a comme ça un jeu entre les deux qui est très intéressant.
Philippe Chevillier, elle s'empare donc de ce conte des contes 17e siècle. En quoi ça nous parle aujourd'hui?
En quoi ça nous parle aujourd'hui? Alors déjà, bon, le conte des contes, c'est assez formidable en fait, parce que ça ressemble beaucoup au Mille et une nuits, dans la mesure où il y a une star qui démarre au départ. Si je me souviens bien, c'est parce que un fils de famille très mélancolique est en train de sombrer dans la déprime, et que sa sœur est en train de prendre le même chemin, et son père décide de convoquer un homme qui est un conteur, parce que seuls les contes peuvent le soigner. Donc on a plein de contes qui sont balancés, tous plus cruels les uns que les autres, qui sont parfois inspiré du folklore napolitain, mais aussi des contes européens, de Grimm, de Perrault, etc. Et là, ce qui ressort entre le roi qui se croit tout puissant et un peu grotesque, et puis donc il y a un côté comédie du pouvoir, et puis il y a les courtisans autour et l'appât de l'or. Et à la fin, on bascule dans finalement l'adoration d'une poule aux œufs d'or. C'est pas une veau d'or, c'est une poule aux œufs d'or qui est sur scène. Elle joue très bien. On dit que les animaux sont très cabotins, les poules en particulier.
Il y a une vraie poule sur scène?
Il y a une vraie poule sur scène.
Ah bah, alors, j'ai vu le gâcher un peu la dernière partie de la scène.
Oui, mais bon, voilà. Il y a une poule sur scène, et comme les poules vivent 5 à 10 ans, je pense qu'elle peut faire toute la tournée.
Mais on la mange à la fin, c'est ça?
Ah non,
pauvre poule.
Donc ça, en fait, et alors ce qui est amusant aussi, c'est que je trouve moi personnellement que ce qu'il y a de bien dans ces contes, c'est qu'ils sont amoraux, au sens que on peut pas tirer une morale vraiment très bon. Il y a cette satire, mais à la fin, si on veut transcrire ça dans la réalité, se dire ah bah c'est une métaphore d'eux, c'est très difficile, parce que c'est finalement très amoral à la fin. Bon, c'est la poule qui gagne, mais la poule aux œufs d'or, donc est-ce qu'elle va leur donner encore des œufs jusqu'à la fin des temps? Donc c'est assez impressionnant de ce niveau-là, c'est de pas avoir de vraiment, ça reste énigmatique, et c'est ce qui est beau dans ces contes baroques qui sont un peu finalement barrés, quoi. Un peu.
Les contes baroques barrés, c'est ouais. Pas mal ça. Vincent Bouquet.
Oui, moi c'est ça aussi qui m'a frappé, c'est-à-dire que, et je trouve qu'Emma Dante appuie aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manichéisme. On a vraiment, alors évidemment, comme dans tout conte, une sorte de leçon, de morale un petit peu, mais tout du long, en fait, on a ce roi, alors on se prend un peu de pitié pour lui, c'est vrai, parce qu'il s'affame, et en même temps on voit qu'il n'est pas exempt de tout reproche. Par exemple, il est très imbu de lui-même, il a un titre à rallonge, comme ça. Alors, je le citerai pas ici parce que sinon on y sera encore à 13h, mais il a comme ça un titre à rallonge. Il est pas très juste, c'est pas vraiment un bon mari. Il a été, on le comprend aussi, très préoccupé par les fêtes, les jouissances terrestres. Et donc, il y a une forme de, presque de punition de lui. Et en même temps, on a donc ce roi dont on se prend un petit peu de pitié, en même temps qu'une pitié paradoxale. Et de l'autre côté, cette noirceur du groupe qui se met en place comme ça, et qui est une sorte de groupe de charognards un peu, qui sont comme ça, avides de richesses. Et donc, on a vraiment, comme diraient les Anglais, c'est check and balances. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté-là. Il y a ce côté vraiment très équilibré, et on n'est pas dans une morale. Donc c'est vrai que je rejoins assez Philippe là-dessus, et c'est assez agréable de ne pas nous dire quoi penser. Ça donne matière à penser, mais on ne nous dit pas quoi penser.
Philippe Chevillier.
Oui, et alors il ne faudrait pas oublier aussi ce qui est très important, presque l'essentiel, c'est évidemment les acteurs, danseurs sur scène qui sont tous extraordinaires. Il y a le roi qui est joué par Carmine Maringola, la reine Anna Maria Palomba qui est très rêche, très dure, et qui a un côté clownesque. Il y a ce mélange en fait, encore une fois, de comédia dell'arte puis de clown moderne qui est très efficace. Alors dans un parler, elle le dit elle-même, à la limite qu'on comprenne pas, c'est pas très grave, nous on comprend parce qu'on a les surtitres, mais tout est quand même dans le geste. Et quand on voit le roi souffrir avec la poule qui bouge, on a vraiment l'impression qu'il a une poule à l'intérieur. C'est très très bien fait. Il joue très très bien. Et il y a dans ce jeu de ballet, Vincent parlait de cette scène où du thé, et à un moment donné, donc on les voit qui recrachent leur thé. Alors c'est une scène qui pourrait être trash, et en fait c'est très très beau avec les lumières, puisqu'il y a pas de décor, mais la lumière sculpte les personnages et leurs costumes, et donc on les voit se cracher dessus, après on les voit avec des spaghettis, et en fait c'est un peu ça reflète complètement le déroulé du conte, qui est à la fois donc scatologique et méchant, et en même temps drôle et merveilleux. Et dans la mise en scène, on a ça aussi, c'est-à-dire qu'elle utilise des choses comme se cracher dessus et tout ça pour en faire des scènes jolies.
Et Vincent Bouquet, on parlait de la mise en scène d'Emma Dante, on parle de la précision de la mise en scène, comment ça se manifeste?
C'est vrai qu'on voit que tout est très chorégraphié. Par exemple, vous disiez, Philippe, tout à l'heure, qu'il recrachait le thé. Alors, je crois qu'il recrache plutôt les galets bretons qu'ils sont en train
oui,
de manger.
Vrai,
que c'est les galets bretons.
C'est un mélange.
C'est mieux.
C'est un mélange, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, et en fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire comme ça, parce qu'au départ, on a un jeu comme ça qui est très appuyé. Et en fait, il est volontairement appuyé, puisque c'est... personnages, chez comédiens et comédiennes, sont des pantins avant tout, ce sont des figures. Et il y a un jeu qui est très physique, très engagé, qui demande beaucoup, beaucoup aux comédiens et aux comédiennes. Et c'est vrai que tous les mouvements sont comme ça, très précisément chorégraphiés. On voit qu'elle ne laisse rien au hasard, Emma Dante. Et c'est vrai que, alors c'est ça qui est assez beau, c'est que le moindre fait, le moindre geste, par exemple, il y a un moment, il y a une prise de tension du roi, et bien ça se transforme en petit événement théâtral comme ça. Il y a une petite épiphanie qui se crée sur scène. Et il y a un vrai souci du détail, et y compris même comme il y a ce plateau nu, elle est obligée d'avoir souci du détail, et notamment dans les costumes, dans les accessoires. Par exemple, on a ce roi qui a constamment une corolle avec des plumes noires façon ange déchu, et puis les damoiselles. Alors au départ, je me suis dit c'est bizarre, elles ont des hanches un petit peu trop prononcées. Puis je me suis rendu compte que oui, il y avait des prothèses, donc ça va jusque là, c'est-à-dire mettre des prothèses de hanches pour bien qu'on remarque elle profite par rapport à ce roi qui lui est affamé. Et donc voilà, elle vraiment tout se niche comme ça, et c'est pour ça que c'est du travail d'orfèvre, parce que rien, et ça n'en donne pas l'impression, c'est-à-dire que c'est sans avoir l'air d'y toucher.
Requiquinella, librement inspiré du conte des contes de Giambattista Basile et par Emma Dante, c'est jusqu'au 29 janvier au Théâtre de la Colline, et puis ensuite ce sera en tournée en Italie, toutes les dates seront sur la page des Midi de Culture. Et c'est l'heure de votre coup de cœur théâtral, Vincent Bouquet.
Alors effectivement, Marie, je souhaiterais revenir sur une expérience assez mal aimable, il faut bien le dire, mais néanmoins très troublante, que j'ai vécue il y a une semaine tout pile au Théâtre de la Bastille à Paris, en découvrant Émoué, mal du pays. Alors, le pays dont il est question, c'est la Suisse, la patrie d'origine de Gabriel Spartil, metteur en scène, et ce pays, c'est aussi celui sur lequel il tape à bras raccourcis. Alors, cette opération, il l'amène en deux temps, avec deux face-à-face successifs, le premier entre un étranger, qui est installé sur un banc au bord du lac Léman, et le paysage qu'il est en train d'observer. Et plutôt que de profiter de la beauté des lieux et puis de la quiétude légendaire de la Suisse, eh bien, il s'en agace. Et il y a un second face-à-face qui, lui, est organisé entre ce même étranger et cette fois un trio de Suisses qui sont convoqués à une sorte d'atelier. On ne sait pas trop, mais on se dit que c'est un atelier et qui, à force de bienveillance, de politesse, de salamalek entre eux, vont peu à peu le faire dérailler. Alors évidemment, à travers ce double face-à-face, Gabriel Sparti s'en prend à la légendaire neutralité des Suisses, qu'on connaît bien, à leur comportement un peu trop policé, mais pas que. Car il élargit la focale et il s'en prend aussi, je dirais, à une forme de neutralisation des esprits, des comportements qui... elle va bien au-delà des frontières de la Suisse, à une attitude qui, un peu comme ça, sous couvert de bienveillance, de gentillesse, s'avère en réalité être un carcan de bienséance, où la pensée comme ça peine à advenir, et qui produit même une forme de déshumanisation, voire de violence à l'encontre d'autrui. Alors tout cela, et c'est là le point très fort et déroutant du spectacle, Gabriel Sparti ne le donne pas simplement à voir, mais aussi à ressentir. Il travaille vraiment sur le son, sur ses mots qui sont comme ça, prononcés toujours à voix très basse, comme si on n'y avait pas forcément accès, sur ces silences qui tranchent avec des chants folkloriques qui sont entonnés en canon. En fait, il se comporte un peu comme Nietzsche le faisait avec la philosophie, c'est-à-dire qu'il tape sur la neutralité à coups de marteau, y compris littéralement d'ailleurs, pour voir comment elle résonne. Alors tout cela, ça repose sur une forme d'absurde, de rire à plusieurs ressorts, parfois il est moqueur, parfois il est gêné, et surtout sur un étonnant transfert de charge psychologique, puisqu'on se surprend soi-même, dans les gradins, comme l'étranger, à peu monter en pression, à s'agacer de l'attitude de ce trio de Suisses qu'on trouve un peu trop neurasthénique. Alors au départ, on les trouve assez touchants, on a plutôt envie de les prendre dans les bras, et puis peu à peu, on a surtout envie de les secouer pour les réveiller de cette torpeur dans laquelle ils nous embarquent. Alors comme toute entreprise qui joue sur la frustration et le malaise, celle-ci peut s'avérer déroutante, mais je pense qu'elle a vraiment le mérite d'être vécue.
Et donc c'est Hemingway, c'est ça ?
C'est ça.
Mal du pays de Gabriel Sparti, c'est jusqu'au 24 janvier au Théâtre de la Bastille à Paris.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On enchaîne avec la reprise d'un spectacle qui a fait forte impression dans le Off d'Avignon d'abord en 2023, puis au Petit Saint-Martin. Guerre revient au Théâtre de l'Œuvre à Paris, adapté d'un manuscrit inédit de Louis-Ferdinand Céline, redécouvert en 2021. Guerre est un seul en scène avec le comédien Benjamin Voisin qui fait ses premiers pas au théâtre. Mise en scène par Benoît Lavigne, le texte suit la convalescence du soldat Ferdinand Destouches, blessé sur le front des Flandres. En 1914, on y retrouve la langue brûlante de Céline, le chaos de la Grande Guerre, l'ironie, l'absurdité. Que fait-on de Céline aujourd'hui? On voit ça avec vous, avec l'un et l'autre, mais d'abord un avis rapide, Vincent Bouquet.
Alors moi je dirais que ce spectacle c'est avant toute chose une métamorphose, celle d'une gueule d'ange si je peux me permettre, celle de Benjamin Voisin qui en buvant la potion littéraire de Céline se transforme en gueule cassée qui est à mi-chemin entre la mort dont il vient de réchapper et puis cette vie que paradoxalement il croque à pleines dents.
Philippe Chevillier.
Oui, moi je trouvais que c'était une belle adaptation. Pardon, humble et pertinente du roman inédit de Céline. Interprété par un jeune premier surdoué qui brûle les planches autant qu'il crève l'écran.
Ah oui, carrément. Donc Benjamin Voisin, Vincent Bouquet, c'est vraiment ce que vous retenez, la métamorphose de Benjamin.
Ah oui, 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 moi c'est ce que je retiens. Alors bon, il est seul en scène, hein, il faut vraiment se représenter cela, c'est-à-dire que en plus Benoît Lavigne a vraiment tout fait pour avoir un travail de mise en scène très discret avec simplement des lumières, un travail sur le son qui est très précis et qui rappelle d'ailleurs que la guerre gronde en toile de fond, mais vraiment la star, j'allais dire, de ce spectacle, c'est Benjamin Voisin. Et c'est assez étonnant de le voir parce que cette langue de Céline, elle est argotique, on le sait, elle est tortueuse, elle est crue, elle est aussi volontiers piégeuse. Et là, on voit tout son ampleur, tout son relief. Et ce Benjamin Voisin, il la croque vraiment à pleines dents, cette langue de Céline.
Alors justement, on va écouter un petit extrait Benjamin Voisin dans Guerre.
Ferdinand, savez-vous quelle grande nouvelle je vous annonce? Non. Vous venez d'être décoré par le maréchal Joffre de la médaille militaire. Vos chers parents sont avertis, ils vont arriver demain. Voici votre magnifique citation. Elle l'a lu tout haut. Pour tout le monde. Le brigadier Ferdinand a été cité à l'ordre du jour de l'armée pour avoir tenté, seul, de dégager le convoi dont il avait mission d'éclairer la route. au moment où ce dernier, surpris par l'artillerie et les renforts de cavaliers ennemis, se trouvait aux prises, le brigadier Ferdinand a chargé, par trois fois, seul, un groupe de lanciers bavarois et réussit ainsi, grâce à son héroïsme, à couvrir la retraite de 300 éclopés du convoi. Le brigadier Ferdinand a été blessé au cours de son exploit.
Guerre de Louis-Ferdinand Céline avec Benjamin Voisin, mise en scène par Benoît Lavigne. Philippe Chevillier, vous aussi, forte impression pour Benjamin Voisin.
Oui, forte impression parce que j'ai relu un petit peu en diagonale le roman. Mmh. Et je me suis dit, mais finalement, c'est pas du tout si évident que ça à porter au théâtre. Même si il y a évidemment un langage parlé, l'argot. Et je trouve qu'il a à la fois, il porte à la fois cette innocence et du personnage et le cynisme naissant du personnage aussi et de Céline et qu'il a à la fois cet aplomb, cette assurance du jeune qui s'est sauvé, qui a sauvé sa vie, et en même temps cette frayeur en lui par rapport à la guerre, mais aussi par rapport à l'existence d'une certaine façon. Il a ce don aussi pour un phrasé qui à la fois arrive à s'accaparer l'argot de l'époque et en même temps un parler d'aujourd'hui. Ça, c'est une drôle de mixture. Et puis il a ce charisme qui fait que il a ce côté très séduisant en scène et un peu inquiétant, qui correspond bien à l'idée qu'on se fait des héros de Céline. Mmh. Et en plus, ce roman n'est pas un roman de jeunesse, puisqu'il a été écrit 2 ans après, on pense, hein, 2 ans après Voyage au bout de la nuit et avant Mort à crédit, donc entre les deux, qui revient sur cette expérience qui est une expérience autobiographique, hein, qu'il a vécue dans les tranchées, alors fantasmée en partie, et notamment il y a toute la partie romanesque et où les fantasmes érotiques de Céline s'expriment, et avec un épilogue qui à la fin qui correspond pas tout à fait au vécu de Céline, mais donc c'est la partie romanesque. Et je trouve que il arrive à porter, donc Benjamin Voisin arrive à porter justement cette ambiguïté, mmh, entre le récit d'une guerre insupportable, des tranchées, de ses soins, de sa guérison, de sa décoration un peu ironique, et puis ce besoin de vivre, ces besoins érotiques, ces besoins, et tout ça, et en même temps cette dimension effectivement de très très pessimiste qu'on sent déjà dans le roman.
Benjamin Voisin, pardon, je vous appelle Benjamin Voisin, Vincent.
Oh bah c'est plus un compliment.
C'est sympa.
Bah oui, moi ça me va.
Sauf que j'allais vous dire que vous disiez qu'il était passé du plus beau mec, on va dire, à gueule cassée.
Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une gueule cassée lumineuse, j'allais dire. Moi, je l'ai trouvé assez solaire, ce Benjamin Voisin. Ça m'a étonné parce que, j'allais dire, moi, quand j'ai lu Voyage au bout de la nuit, on se fait toujours des images mentales des personnages. Ferdinand, je l'imaginais pas forcément tout à fait comme ça. Et là, il lui apporte quand même une vraie couleur, une vraie épaisseur, comme le disait Philippe.
Donc il arrive à se séparer quand même du poids comme ça de ce personnage.
Quand même, tout à fait, dont chacun et chacune a une idée. En tout cas, quand on est confronté à Céline, quand on a été confronté à Céline, il a comme ça un ton gouailleur, une attitude un peu bravache. Mais il est animé par cette fougue, par ces pulsions de vie, en fait, et notamment par ces pulsions sexuelles, alors qu'ils sont toujours omniprésentes, hein, chez Céline, mais là, elles le sont vraiment, notamment à travers les personnages féminins, Mademoiselle Lespinasse, qui masturbe les soldats, qui agonisent.
Oui, il est en convalescence,
c'est ça. Oui, tout à fait, il est en convalescence, il vient d'être blessé, en fait, sur le front, et il est en convalescence, il est à l'hôpital, et donc il se fait soigner donc par une infirmière, Mademoiselle Lespinasse, et puis petit à petit, comme ça, il va croiser tout un tas de personnes qui vont l'embarquer, l'extraire de l'hôpital. Et donc, c'est vrai que, pour revenir sur ces pulsions sexuelles, peut-être, c'est vrai que moi, ces passages, au départ, je les ai trouvés peut-être un peu libidineux. Alors, on peut reprocher un petit peu à Céline. C'est vrai qu'avec les lunettes du présent, on peut se dire, quand même, les femmes, comme ça, qui sont réduites à leurs atours sexuels, qui sont des supports de projection des fantasmes d'un homme, même de plusieurs hommes, on peut se dire que ça peut être un peu problématique d'entendre entendre ça aujourd'hui, mais en fait, j'allais dire, ces embardées un peu, elles ne sont supportables que parce qu'elles sont constamment mises en regard de la mort qui rôde tout autour, et parce qu'elles sont un moyen quasiment vital de se prouver qu'on est encore bien vivant, et puis de rejouer l'éternel tandem entre Eros et Thanatos. Voilà, et elles sont supportables aussi, parce que Benjamin Voisin, comme on a un peu pu l'entendre dans l'extrait d'ailleurs, il donne pas simplement une épaisseur et une couleur au personnage de Ferdinand, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui l'entourent, puisqu'il les vraiment, il les incarne. Il ne fait pas que les invoquer ou les convoquer.
Philippe Chevrier, oui.
Oui, je voulais aussi souligner, mais Benjamin, décidément, vous appelez Benjamin.
On vous appelle Benjamin tout le temps, maintenant, Vincent.
Voilà. Donc Vincent l'a évoqué tout à l'heure, c'est le travail de Benoît Lavigne qui est très fin.
Donc le metteur en scène, oui.
Le metteur en scène, et qui est aussi directeur de l'œuvre maintenant, je crois. Il a une fonction...
Il est directeur du Lucernaire.
Lucernaire, mais je crois qu'il a une fonction aussi à l'œuvre.
Ah d'accord.
Peut-être que je me trompe.
On vérifiera ça.
On vérifiera. Et qui est en fait très... qui est très fin, ce travail, parce que, alors d'abord dans la gestuelle, il n'en fait pas trop, il y a très peu d'accessoires, et puis cette idée, enfin moi, ce fond de décor avec cette toile qui est à la fois entre impressionnisme et abstraction, qui va du rouge au gris, et qui est très très bien éclairée, ainsi que d'ailleurs Benjamin Voisin, justement c'est juste l'atmosphère qu'il faut pour déployer le roman et pour déployer la langue de Céline. Donc voilà, c'est vraiment une réussite ce spectacle.
La mise en scène pour vous, Vincent Bouquet ?
Oui, ben c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a vraiment comme ça quelque chose de la forme de l'écrin. Moi, je suis assez d'accord avec Philippe, de cadre scénique qui est, et en fait, il a très conscience, Benoît Lavigne, et ça, c'est très humble de sa part aussi, de se dire, bah voilà, je sais que j'ai un comédien d'exception, je sais que j'ai un texte d'exception, et donc moi, je vais pas en faire des caisses, j'allais dire, des tonnes, en tout cas, au niveau de la mise en scène, et je vais simplement bien l'éclairer, rappeler que la guerre, quand même, gronde en toile de fond. Mmh. Et puis,
comment il fait d'ailleurs ça, pour la rappeler, la guerre
Alors la guerre, en fait, elle se matérialise beaucoup par un travail sur le son. Je ne sais pas si Philippe, vous avez été sensible à ça, mais il y avait vraiment, moi je trouvais, comme ça, ces grondements qui sont un peu là, cette atmosphère un peu inquiétante. On va avoir aussi, alors les lumières, elles vont être tantôt crépusculaires, tantôt, enfin voilà, il va y avoir vraiment comme ça une alternance. Et puis évidemment, lui est en costume. On a aussi sur scène tout un tas de petits, alors je dirais que c'est des petits bout de roche, un petit peu comme s'il y avait une conséquence d'une explosion, un peu. Mais tout cela est vraiment très, 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 très discret. Et donc, ça sert juste de cadre, vraiment, à l'évolution de la langue de Céline et du jeu de Benjamin Voisin.
Alors, pour parler de la langue, vraiment rapidement, l'adaptation du texte en soi, qu'est-ce que vous en avez pensé, Philippe ?
Alors, moi, je pense qu'elle est vraiment plutôt très réussie. Alors, avec cette dimension qui est que finalement, roman inédit, à qui il manque quelques pages, quelques mots, c'est peut-être moins intimidant que s'attaquer à d'autres grands romans de Céline qu'on a vu adaptés au théâtre parfois de façon pas terrible. Là, il y avait une forme de liberté au fond pour Benoît Lavigne, et je pense qu'il a bien réussi l'équilibre en ayant justement ces trois dimensions, la dimension sur la guerre, ensuite la dimension sur cette convalescence et tous ces personnages qui apparaissent, et puis cet épilogue un peu romanesque qui nous amène vers Londres qui est un autre roman inédit, je crois, de Céline, et peut-être qu'on verra la suite.
On verra la suite, peut-être. Guerre de Louis Ferdinand Céline avec Benjamin Voisin, c'est jusqu'au 2 mars au Théâtre de l'Œuvre. Vincent Bouquet, Philippe Chevrier, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans les Midis de Culture.